Chapitre 26. Ça s'arrêtera donc jamais, soupira Alice. Des heures que les assaillants tambourinaient sur le volet métallique de la baie vitrée et sur la porte blindée de la buanderie. Certains d'entre eux avaient tenté de se faufiler dans les sous-sols par les soupiraux, mais les barreaux avaient cette fois tenu bon, de même que les traverses métalliques protégeant la porte basse qui donnait sur les douves. Alice était descendue à la cave malgré sa frayeur lorsqu'une volée de coups provenant d'en bas avait ébranlé l'air et le sol. Après avoir ordonné à Zoé et à Théo de ne pas bouger, elle s'était rendue d'un soupirail à l'autre, munie de sa hache, et avait entrevu les ombres qui tentaient de desceller les barreaux à l'aide de courts leviers. Elle y était demeurée jusqu'au départ des rôdeurs, découragée et probablement affaiblie par les privations. Soulagée, elle était remontée auprès de ses enfants, prostrée près de la porte de la buanderie. Les mains plaquées sur ses oreilles, Zoé sursautait et gémissait à chaque coup de boutoir.
« T'as pris la hache, finalement ?» dit Théo.
Alice ne s'était même pas rendu compte qu'elle l'avait emportée avec elle. Elle tremblait de tous ses membres, et sa cage thoracique semblait trop exiguë pour son cœur affolé.
« Ils ont essayé de passer par le bas ?»
insista Théo. Alice s'éclaircit la gorge pour redonner un semblant de fermeté à sa voix.
« Ils ont abandonné. Ils n'ont pas réussi à arracher les barreaux. » « Ouais, mais à force, ils vont réussir à défoncer la porte.
Le temps joue en notre faveur. »«
Comment ça ?»
Alice s'assit aux côtés de son fils qui levait des yeux anxieux sur la porte et le serra contre elle.
« Ils ont rien à manger. Ils tiendront pas longtemps. »
Comme pour illustrer ses propos, les assauts des rôdeurs s'espacèrent. De même, le fracas en provenance de la pièce principale s'estompa.
Ils auront peut-être même plus la force de franchir le mur.
On entendait à présent des geignements de colère et de désolation. Puis, peu à peu, un silence morne retomba sur le feu de Dieu. Ce fut Zoé qui le rompit.
« Qu'est-ce qu'on fait, maman ? »
demanda-t-elle d'une voix à peine audible.
« Allez vous recoucher, vous deux. Tu comptes nous laisser seuls avec le Grax ? Je viens avec vous. Il faut que je lui parle. On n'allume aucune lumière, compris ?»
Elle les accompagna dans la grande pièce et les embrassa sur le front après qu'ils se furent glissés dans leur lit. Puis elle ajouta du bois dans le poêle et se rendit près de la baie vitrée, où Jim, son trident collé contre sa jambe, se tenait comme un animal aux abois.
« Ils ont renoncé, on dirait, » dit Alice à voix basse.
Il lui adressa un regard de biais. Ses yeux ouvraient sur l'obscurité deux minuscules fenêtres grises et ternes.
« J'en suis pas si sûr.
Ils survivront pas longtemps dans ce froid.
Possible, mais moi je bouge pas d'ici pour l'instant. »
Elle désigna les jambes nues de Jim qui tombaient de son t-shirt en branches noueuses et décharnées.
Tu devrais te couvrir si tu veux pas attraper la crève.
Va me chercher mes fringues alors. Je te dis que moi je reste là.
T'as raison, ils vont sûrement revenir à la charge. Moi je continuerai de surveiller la porte de la buanderie.
La peur du Grax était la meilleure alliée d'Alice. Tant qu'il redouterait l'intrusion des rôdeurs, il ne songerait pas à importuner Zoé. Elle lui apporta ses vêtements et retourna aussitôt dans la buanderie. Elle enfila elle-même une deuxième veste de laine, vérifia au passage que les enfants dormaient et prit trois coussins avec lesquels elle se confectionna un siège relativement confortable. Elle s'installa à côté de la porte blindée, adossée au mur, les jambes recouvertes d'un plaid, se concentra sur les bruits jusqu'à ce que sa fatigue émousse sa vigilance et qu'elle s'égare dans les labyrinthes tortueux de ses pensées. Des murmures traversaient le silence comme des songes, parfois confondus avec les mugissements du vent. Un bruit, ou un écho, la réveilla en sursaut. Elle se leva en un réflexe, demeura quelques secondes hébétée avant de remettre de l'ordre dans ses pensées et de foncer vers la grande pièce. Elle fut soulagée de découvrir ses enfants endormis dans leur lit, et Jim assoupi, enroulé dans une couverture, dans le fauteuil qu'il avait tiré devant la baie. Elle inspecta la grande pièce à la lueur d'une minuscule torche, enfourna une bûche dans le poêle, puis elle bâillonna sa terreur, pour descendre dans la cave enchâssée dans un silence de tombe. Elle constata avec un immense soulagement que les soupiraux n'avaient subi aucune dégradation, ni la porte basse qui ouvrait sur la douve. Les assaillants avaient apparemment renoncé à emprunter le chemin des sous-sols. Restait la voie des airs. Pas évident de grimper sur des toits transformés en patinoires par la glace. En revanche, s'ils parvenaient à se hisser là-haut, les assaillants briseraient facilement les tuiles et les voliges. Elle remonta dans la pièce principale. Tout en se gorgeant de la chaleur bienfaisante du poêle, elle hésitait sur la conduite à suivre. Le courage lui manquait à la perspective d'explorer les combles, mais elle n'avait pas le droit d'être négligente dans les circonstances. Un autre craquement retentit, émiettant le silence. Impossible d'en déterminer la provenance. Plus morte que vive, elle se rendit dans sa chambre, puis dans celle de Théo et de Zoé. elle eut l'impression de profaner une tombe, ou l'un de ses royaumes plongé dans un sommeil enchanté. Le froid était sournois, ensorcelant. Elle ne perçut aucun bruit au-dessus d'elle. Elle traversa de nouveau la pièce principale, la cuisine, franchit la réception de l'ancienne grange et visita le premier appartement, celui des Jeanneret. Malgré la laine épaisse de ses gants, ses doigts s'engourdissaient et peinaient à serrer le manche de la hache. Des particules de cendre ou de poussière volaient dans le rayon de la torche. Elle revint dans le couloir et jeta un coup d'œil par les meurtrières, si étroites qu'elle ne pouvait passer la tête et ne discernait aucun détail de la cour intérieure. Elle se retourna, alarmée par une sensation de présence, comme si un souffle lui avait léché la nuque. La lumière ne révéla rien d'autre que la cloison opposée et la porte entrebâillée de l'appartement. Alice promena le faisceau étincelant autour d'elle. Personne. Elle aurait juré pourtant que quelqu'un se tenait derrière elle quelques secondes plus tôt. La frayeur la rendait folle. Le craquement se fit de nouveau entendre, très net, juste au-dessus d'elle. Elle crut que son cœur se rétractait et rebondissait comme une balle d'un coin à l'autre de sa poitrine. Ils avaient laissé le vieil escabeau en aluminium dans les environs après leur inspection de la toiture. Elle alla le chercher, gravit les échelons sans lâcher sa hache, et de sa main libre, dégagea le crochet métallique avant d'entrouvrir la trappe. Le craquement, à nouveau, suivi de grattements, de crissements, comme si on déplaçait des tuiles. Elle s'interdit formellement de s'enfuir, glissa la hache dans l'ouverture, puis se hissa dans le grenier. Elle se rétablit sur ses jambes, et peinant à garder son équilibre sur les panneaux souples de laine de roche, elle éteignit la torche afin de ne pas donner l'alerte à celui ou ceux qui se promenaient sur le toit. Étonnée par leur discrétion, elle se plaça juste sous la source de bruit. Des poussières et des particules de givre lui caressèrent le front et les joues. Elle comprit qu'ils avaient réussi à déplacer une ou plusieurs tuiles lorsqu'un courant d'air glacé lui lécha la face. Elle leva lentement la hache. Le fer heurta une poutrelle au-dessus d'elle. Le choc ne fit quasiment aucun bruit, mais la vibration suffit à alerter les intrus, qui suspendirent aussitôt leurs activités. Submergée par la peur, Alice se mordit l'intérieur des joues. Elle n'osa plus respirer pendant un temps qu'elle aurait été incapable d'évaluer. Une éternité. Les mouvements et les grattements reprirent au-dessus d'elle. Les intrus s'attaquaient maintenant aux voliges. Le bois, probablement pourri, céda rapidement. Des copeaux dégringolèrent en pluie sur les cheveux et les épaules d'Alice en répandant une âpre odeur de moisissure. Elle entrevit un premier mouvement à quelques centimètres de sa tête, trop furtif pour qu'elle puisse abattre la hache. Attendre. Peut-être qu'en allumant la torche au dernier moment, l'effet de surprise lui offrirait un avantage décisif. Elle tira la lampe de la poche de sa veste et la maintint braquée sur la tache légèrement plus claire d'un diamètre d'environ 30 centimètres qui se découpait dans le toit. Un deuxième mouvement. Une forme s'immissa par l'ouverture et se maintint quelques secondes à l'intérieur du grenier. Alice pressa l'interrupteur. Le rayon de lumière fendit les ténèbres et emprisonna une tête gris-brun pourvue d'yeux ronds et noirs, de moustaches, d'un museau et d'oreilles pointues. Une fouine. La tension d'Alice se relâcha d'un seul coup. Elle faillit éclater de rire. Elle se souvint du couple de fouines qui, quelques années plus tôt, avait provoqué des dégâts considérables dans la toiture en puantie de leurs odeurs, de leurs déjections ou des reliefs de leurs festins. On avait réussi à les capturer dans des cages de fer et on les avait relâchés dans la nature une vingtaine de kilomètres plus loin. Étaient-ce les mêmes qui revenaient s'installer au feu de Dieu? Ou d'autres, guidés par les signaux olfactifs disséminés par leurs congénères? Alice apercevait une partie du cou et du poitrail blanc de la fouine qui ne bougeait pas, éblouie, hypnotisée. Elle n'était pas seule, comme en attestaient les grattements nerveux et continus sur les tuiles. Comment avait-elle survécu? Par quelle mystérieuse voie était-elle parvenue jusqu'au feu de Dieu? Alice refusa de se laisser attendrir par la ravissante petite tête penchée au-dessus d'elle. Pas question de leur permettre de s'installer dans les combles. Elles appartenaient à la légion des parasites. Elles créeraient des brèches par lesquelles s'engouffreraient les cendres, les flocons de neige et les cristaux de glace. Elles chercheraient de la nourriture dans les moindres recoins. Leur raffut nocturne empêcherait les autres occupants de dormir. La seule façon de les neutraliser était de réinstaller les pièges. Alice se souvint que les cages avaient été entreposées dans l'atelier. Il faudrait attendre pour les récupérer que les assaillants aient déserté la cour intérieure. La fouine disparut et s'éloigna avec sa congénère. Le silence absorba les crissements de leurs griffes sur la glace. Elles avaient humé la chaleur, les odeurs de nourriture, la vie dans cette bâtisse. Elles ne renonceraient pas à une telle aubaine, dans un monde qui n'offrait pratiquement plus aucune ressource. Alice replaça les deux tuiles de son mieux, puis elle bourra la brèche de laine de roche arrachée au panneau isolant. Un grand nombre de planches commençaient à pourrir. Elle remonterait plus tard pour vérifier toute la toiture et clouer, si nécessaire, de nouvelles voliges. Ils attendirent encore 4 jours pour relever le rideau de la baie vitrée. Les fouines étaient revenues et s'étaient installées dans les greniers. On les entendait folâtrer sur les planchers et pousser leurs petits cris aigus. Elles avaient aussi trouvé le chemin des sous-sols. Elles emportaient tous les aliments qu'elles pouvaient, les pommes, les châtaignes, les noix, les pommes de terre, crevaient les sachets de pâtes, de riz, de lentilles, les boîtes de céréales. Bref, elles opéraient chaque nuit une véritable razzia en semant leur déjection, leur urine, causant des dommages importants. « Si on les laisse faire, elles vont foutre en l'air la toiture et nos réserves », dit Alice. « Il faut intervenir. »«
Comment ?»
glapit le Grax.
« On n'a même pas de flingue. »«
On a des pièges, mais ils sont dans l'atelier. »
Comme les assaillants ne s'étaient plus manifestés, ils décidèrent de relever le volet en observant les plus grandes précautions. Lorsque le ventail métallique se fut soulevé d'une hauteur de 50 cm, Alice le bloqua et Théo s'allongea sur le carrelage pour jeter un premier coup d'œil sur la cour intérieure. Il aperçut des formes sombres et inertes sur le tapis de cendres qui s'était tassé sous son propre poids et réduit à une épaisseur d'une trentaine de centimètres.
« Y a rien qui bouge !» dit-il. « T'es sûr ?»
demanda le Grax.
« Vérifie par toi-même si tu le crois pas !»
intervint Zoé qui avait retrouvé son agressivité coutumière. Alice n'aima pas le regard torve que Jim lança à sa fille. Elle pressa une deuxième fois l'interrupteur et le volet reprit son mouvement ascendant dans une succession de grincements. La cour baignait toujours dans l'obscurité, mais ses contours se dessinaient nettement. À gauche, l'atelier et l'ancien four à pain, à droite, la grange et ses meurtrières percées à intervalles réguliers. Au fond, le portail monumental encadré de ses deux pans de mur. Et puis, disséminés sur le tapis gris, des formes allongées et immobiles. Des corps. Alice en compta 8. Certains d'entre eux avaient tenté de se protéger du froid en se rencognant dans les renfoncements de portes ou dans les recoins de la cour.
« Putain de merde !»
s'exclama le Grax.
« On n'a plus besoin de tuer ces enculés, le froid s'en est chargé !»
Son rire claqua comme un coup de fouet et imprima une trace douloureuse sur le front d'Alice. Elle entr'ouvrit la baie et passa dans la cour. Elle s'était habillée chaudement en prévision. Théo lui emboîta le pas. Il avait insisté pour l'accompagner et reçut le soutien inattendu du Grax, qui lui avait demandé de ramener son arc et ses flèches. Ils examinèrent d'abord les cadavres à la lueur des lampes torches. À l'aide de son couteau, Alice écarta les pans de tissu rigidifiés de leur tête. Leur maigreur l'horrifia. Leurs visages n'étaient plus que des crânes, habillés d'une peau crevassée, fendillée. Leurs yeux, grands ouverts, exprimaient une peur et une souffrance indicibles. Elle se sentit monstrueuse tout à coup. Monstrueuse d'avoir condamné ses portes. Monstrueuse de s'être elle-même fermée à la pitié. Monstrueuse d'avoir protégé et défendu son espace, son confort, ses réserves. Monstrueuse d'être en vie, alors qu'eux étaient morts. L'intrusion des fouines démontrait que le repli sur soi, le fantasme sécuritaire, n'était qu'une illusion, une imposture.
C'est Ludo !
L'exclamation de Théo la tira de ses réflexions. Elle le rejoignit devant un cadavre recroquevillé près de la grille. Le rayon de la lampe de Théo éclairait un visage pétrifié que, malgré son extrême maigreur, elle reconnut sans l'ombre d'une hésitation. Ludovic Jeanneret. Elle s'accroupit en refoulant une montée de larmes. Il avait survécu au cataclysme, mais qu'étaient devenues Coraline et leurs deux filles ? Comment s'était-il retrouvé dans cette bande ? Était-ce lui qui avait guidé les rôdeurs jusqu'au feu de Dieu ?
« Tu crois qu'elles sont mortes, Julie et Marie ?»
demanda Théo.
« J'en sais rien.
Tu crois qu'ils nous auraient tués, Ludo ?»
Elle ne le savait pas non plus. La faim, le froid, le rayonnement magnétique avaient peut-être dépouillé Ludovic Jeanneret de tout vestige humain.
« Qu'est-ce qu'on va faire d'eux, maman ?»
Il ne resterait pas dans la cour, en tout cas. Elle n'oublierait sa propre culpabilité qu'à la condition de ne plus les avoir sous les yeux.
Il faut les sortir de là.
Pour les mettre où ?
Elle n'entrevoyait aucune solution pour l'instant.
Il n'y a qu'à les mettre dans l'ancien four à pain,
suggéra Théo.
Tu sais, juste après l'atelier. Il sert à rien.
Une bonne idée. Le froid les conserverait. Et lorsque le jour et la chaleur reviendraient, on les enterrerait ou on les incinérerait.
D'accord, mais il y a plus urgent. On doit d'abord neutraliser ces satanés fouines.